Petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour à vous les oreilles buissonnières, comment allez-vous? Lunatique, mal luné ou bien luné? La face ronde et brune et le sourire en croissant de lune? Ensommeillé ou ensoleillé? Les yeux pleins d'étoiles ou illuminés? La voix mélodieuse ou la voix lactée? Vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui d'astronomie. Mais attention, la voie est longue, et du Big Bang aux astéroïdes en passant par Neptune, Saturne et la Lune, la galaxie n'a pas fini de nous plonger dans les recoins de ses trous noirs et infinis. Alors nous sortirons aujourd'hui notre petite lorgnette pour observer en particulier un phénomène bien étrange, les éclipses. Sortez vos clics et vos claques, vos clips et vos claps, vos jumelles, vos lunettes, vos lorgnons, vos gnomons et vos cartes des constellations et envole sur la piste aux étoiles en compagnie d'un pilote de choix, un professeur d'astronomie bien sympa du nom de Marc Bonomo. Pour la question suivante, les éclipses, quand, où et pourquoi ?
À ce qu'on dit, les éclipses, ça éblouit si on le regarde, si on la regarde.
Et après, on a l'impression que, c'est la nuit alors qu'on est en plein jour. Le soleil et la lune, ils sont tous les deux très près de la Terre.
Le soleil et la lune, c'est à peu près la même chose.
Pour moi, une éclipse, ça peut être soit le soleil qui passe devant la lune. Ou la lune qui passe devant le soleil.
Que moi, je dis pas que c'est le soleil qui passe devant la lune, mais la lune qui passe devant le soleil.
Et en fait, c'est le soleil qui va derrière la lune. C'est pas comme si le soleil il allait derrière une montagne, parce que derrière une montagne, il ferait encore jour, tandis que derrière la lune, il fait tout noir.
Quand, c'est pas très souvent, donc faut pas la rater. Et donc ça dure quelques secondes, en plus, ça dépend.
Alors ça peut durer une heure, autant que 5 minutes, autant que 3 secondes, ça dépend des pays.
On entend souvent à la radio ou à la télé que ça se passe souvent en Asie.
Dans les pays très chauds.
Au milieu de la Terre, dans des îles.
Moi je sais que dans des pays, il fait toujours tout noir.
C'est comme au pôle Nord, il y a 6 mois de l'année où il fait tout le temps nuit et 6 mois de l'année où il fait tout le temps jour.
Et quand par exemple il y a une éclipse de lune dans l'hémisphère nord, ça veut dire dans l'hémisphère là où on est, il y aura une éclipse de soleil obligatoirement de l'autre côté.
Par exemple, c'est pas possible qu'il y ait une éclipse de soleil à un endroit et qu'il n'y ait pas une éclipse de nuit en même temps à un autre endroit.
Je crois que la Terre, elle tourne autour du Soleil et la Lune, elle tourne autour de la Terre ou autour du Soleil, je sais plus. Donc c'est pour ça que ça fait une éclipse, des fois.
Il y a deux sortes d'éclipses, les éclipses de Soleil et les éclipses de Lune.
Moi, quand j'étais petite, je croyais que dès qu'il y avait une éclipse, c'était la fin du monde.
Moi, avant, je croyais que le Soleil, déjà, c'était une lampe, qu'il y avait quelqu'un qui l'éteignait toutes les nuits. Et que là, c'est quelqu'un, il avait éteint le soleil plus tôt que d'habitude.
Le soleil et la lune, ils s'ennuient et ils se mettent assis dos contre dos. Et donc nous, on va soit à la face de la lune, soit à la face du soleil.
Le soleil et la lune, ils sont pas très copains. Et ils se chamaillent souvent, mais ils n'ont jamais vraiment le temps de se chamailler. Et là, pour une fois, ils s'arrêtent un peu, ils prennent le temps de se chamailler, puis après ils repartent.
Quand j'étais petite, j'arrêtais pas de dire à mes parents, « Regarde, elle a un visage, il y a quelqu'un qui dort sur la lune. »
Et elle se cache ses yeux avec ses mains, et j'imaginais que ses yeux, c'est ce qui éclaire la Terre, comme des phares.
Et en fait, ils veulent jouer à cache-cache, alors... le soleil il se cache et c'est la lune qui doit le chercher et du coup elle reste.
Quand j'étais petite surtout, je pensais que la lune et le soleil, ils étaient très amis et ils allaient au restaurant. Et puis la lune, elle était du côté de la Terre, donc on voyait tout noir.
comme si il y avait le soleil et la lune, ils se sont donné rendez-vous. Et vu qu'ils peuvent pas se voir souvent, ils peuvent pas se croiser, et ben ils peuvent pas se voir, et ben pour une fois ils peuvent le faire, alors ils le font.
Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa nuit. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici, va voir la plein pour sa lune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il a fait sa vie. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage. Il s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage, puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici pas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa nuit. Papa dit qu'il a vu sa nuit.
C'était, vous l'aurez reconnu ou découvert, Charles Trenet dans sa célèbre chanson « Le soleil et la lune » sur les oreilles buissonnières 99.2. Alors donc, monsieur l'astronome Marc Bonomo, est-ce bien vrai que parfois le soleil donne rendez-vous à la lune pour de galants moments, les rideaux fermés dans le noir, aux curieux que nous sommes ?
Bonjour, ou bonne nuit, ça dépend de quel côté de la Terre on est, puisque j'ai entendu les enfants présenter un certain nombre de représentations de l'espace assez, comment on va dire, embrouillées, voilà.
Étrange pour le moins.
Étrange pour le moins. Alors, comment clarifier tout ça ? Oui, la Lune et le Soleil se donnent rendez-vous, ou plutôt nous donnent rendez-vous, parce que c'est un ballet, une sorte de danse à trois. La Terre, la Lune et le Soleil. Est-ce que les rendez-vous sont galants ? Ça, c'est autre chose.
C'est encore une autre histoire.
On est ici dans l'imaginaire, dans la poésie. Avant peut-être de parler du mécanisme des éclipses, je voudrais dire justement que sur Terre, depuis le début, en fait, quand on est debout sur la Terre, on a le sol en dessous de nous, et puis la moitié de notre champ de vision, c'est le ciel. Donc le ciel a intéressé les humains depuis très très longtemps.
Depuis la nuit des temps.
Depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des humains, quoi, voilà, depuis qu'on peut regarder ce qui se passe. Et donc, selon les centres d'intérêt des personnes, ben, on peut y voir de la poésie, de la littérature, des représentations symboliques, et puis pour certains aussi des choses plus scientifiques qu'on a envie de mesurer, etc. Donc c'est vraiment... Le ciel est ouvert à tous les centres d'intérêt.
C'est voilà. Un vrai livre, finalement. C'est un livre de science, un livre d'histoire, de poésie.
Plus qu'un livre, c'est même une encyclopédie. On va retrouver en astronomie toutes les matières possibles. Beaucoup de littérature et donc de la danse, puisque ces trois astres peuvent se retrouver. Donc moi, je vais me placer un petit peu dans le champ scientifique un peu plus rigoureux de ces mouvements et laisser de côté un peu provisoirement la poésie, etc.
Et voilà. Je pense qu'on en a bien besoin.
Voilà. Donc... la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Alors déjà, se représenter ça comme ça dans la tête, c'est pas très évident, peu importe. Ce qui compte, c'est que ces trois astres se retrouvent périodiquement, c'est-à-dire des dates bien précises que l'on sait maintenant calculer très très longtemps à l'avance, alignés. Alors il y a deux alignements possibles. J'ai entendu les enfants parler des distances, donc on va éclaircir ça. Le Soleil est loin de la Terre et la Lune est proche. de la Terre. Alors loin et proche, ça ne veut rien dire en astronomie, ça ne veut rien dire tout court d'ailleurs, il suffit de dire de quoi par rapport à quoi. Donc on va donner un petit
ordre d'idée, de grandeur.
Ouais, surtout les comparer l'une par rapport à l'autre, ces distances. Mm-hmm. C'est 400 fois. Le Soleil est 400 fois plus loin que la Lune. Voilà. Donc il n'y a pas question de se rentrer dedans, de se cogner, des craintes dont on parlera tout à l'heure, etc. Voilà. La Lune est toute proche. Elle est toute proche. Elle est beaucoup plus petite que le Soleil. Et il se trouve qu'elle est exactement 400 fois plus petite. Alors, prenez une balle de tennis ou un ballon de football dans la main, mettez-le près de votre œil, il apparaîtra très gros, il remplira votre champ de vision, vous tendez le bras, vous le mettez à bout de bras, il apparaîtra plus petit, etc. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, un objet petit à courte distance peut apparaître dans le ciel aussi gros qu'un objet loin et beaucoup plus important comme le Soleil. Et donc il se trouve que quand ces objets-là sont alignés, on peut avoir dans le ciel apparemment la même taille pour la Lune et pour le Soleil. Je parle là des éclipses de Soleil, c'est-à-dire que la Lune passe devant le Soleil, vient cacher ce dernier, et comme ils ont à peu près la même taille, ça le cache complètement, et c'est effectivement la nuit. Mais il y a un autre type d'éclipse, on est moins habitué à en parler parce que c'est moins spectaculaire, c'est l'éclipse de Lune. C'est un alignement dans l'autre sens. Cette fois, la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil.
Et c'est une éclipse bien plus fréquente, du coup.
C'est une éclipse qui n'est pas plus fréquente, mais qui est visible de beaucoup plus d'humains sur la Terre. Et donc, on peut très bien, dans une vie, voir assez facilement quelques éclipses de Lune, alors que les éclipses de Soleil, on en parlera, il faut se déplacer pour aller se mettre exactement sous l'endroit de l'alignement.
Et puis une éclipse de lune, c'est en pleine nuit, donc ça nous change peut-être pas grand-chose, alors qu'une éclipse de soleil, c'est en plein jour, et alors, donc c'est plus spectaculaire.
Effectivement, les deux phénomènes sont très différents. Un se passe le jour, éclipse de soleil, donc il fait jour, voilà, le soleil brille, on peut pas le regarder. J'entendais un enfant parler d'être ébloui lorsqu'il y a une éclipse. On est ébloui quand il n'y a pas d'éclipse, puisque le soleil, c'est impossible de le regarder en face, même avec des lunettes de soleil, surtout pas avec des jumelles ou quoi que ce soit.
C'est oui, ça c'est important dangereux. De prévenir les enfants.
Je rappelle ces règles de sécurité, parce que on devient aveugle en une fraction de seconde en regardant le soleil directement, surtout avec des jumelles ou un télescope. Bref, lorsqu'il y a une éclipse, on s'attend à un phénomène particulier, et donc ce qui est dangereux, c'est de regarder le soleil à ce moment-là, juste avant que l'éclipse se produise. Mais lorsqu'on a éclipse elle-même, que la Lune est complètement devant le soleil, bah à ce moment-là, le soleil, on ne le voit plus. Donc, c'est la nuit qui apparaît en pleine journée à l'endroit où on est. Et du coup, il n'y a aucun danger. Au contraire, à ce moment-là, il faut enlever les filtres, il faut enlever ses lunettes de protection et il fait nuit. Donc, il n'y a vraiment aucun risque à regarder une éclipse. Je le répète, le risque vient de l'éblouissement avant et après, quand il y a encore du soleil.
D'accord.
Voilà. Donc, ça, c'est le phénomène éclipse de soleil. De l'autre phénomène, donc l'éclipse de lune, effectivement, il apparaît en pleine nuit, c'est-à-dire qu'on voit la pleine lune dans le ciel, ce beau cercle blanc, où nous, en Occident, on voit un portrait de femme, par exemple, des yeux et un visage, et puis les Chinois voient des oreilles de lapin, donc on voit...
Un lièvre, certains disent.
Voilà, des choses très différentes d'une civilisation à l'autre. Et donc, lorsqu'il y a cette pleine lune dans le ciel... Cette pleine lune, au cours de son mouvement, donc en tournant autour de la Terre, peut passer dans l'ombre de la Terre. Et c'est lorsqu'elle passe dans l'ombre que, progressivement, donc, sa lumière diminue, puisqu'elle n'est plus éclairée, le temps qu'elle traverse cette ombre de la Terre, et ensuite elle ressort et on la voit réapparaître. Donc effectivement, il suffit qu'il y ait quelques nuages ou qu'on n'ait pas la tête tournée de ce côté-là. Entre un ciel de pleine lune et un ciel sans lune, il y a une différence de luminosité, mais il faut avoir un regard un peu exercé ou être attentif. Donc on peut très bien passer à côté du phénomène sans s'en apercevoir. Une éclipse de soleil, c'est pas possible.
D'autant plus que ça doit être très rapide, non ?
Non, alors sur les durées aussi, j'ai entendu les enfants dire une éclipse de soleil, revenant sur l'éclipse la plus spectaculaire, ça dure au maximum 7 minutes 30, ce qui est assez rare. Il y a eu une éclipse l'an dernier qui était la plus longue sur une période de 100 ans, qui a duré 6 minutes et quelques. Voilà, c'est entre une seconde et 6-7 minutes. Mm-hmm. Je parle là de la totalité, c'est-à-dire le moment de nuit. La phase d'approche, c'est-à-dire que la Lune, avant d'être complètement devant le Soleil, elle vient mordre un petit peu, le recouvrir en partie, de plus en plus, jusqu'à le recouvrir complètement. Donc cette phase-là, elle dure une heure. Mais lorsque la Lune recouvre complètement, au maximum, ça dure 6-7 minutes. Et ensuite, elle s'efface, elle continue son chemin. Il faut à nouveau une heure pour que le soleil réapparaisse pleinement.
Donc, il faut s'y préparer. Hein. 6-7 minutes, c'est pas si long.
C'est pas si long. Et encore une fois, ça, c'est la plus longue durée. On se déplace souvent pour voir des éclipses qui peuvent durer 24 secondes en Australie il y a quelques années, etc. etc. Voilà. Et par contre, l'éclipse de lune de l'autre côté, l'ombre de la Terre étant beaucoup plus grande que l'ombre de la Lune, parce que la Terre est beaucoup plus grosse que la Lune, enfin beaucoup plus grosse, 4 fois plus grosse environ, la Lune met plus de temps à traverser l'ombre, et effectivement, ça dure environ 2 heures pour voir ce phénomène. Donc on a le temps. Et puis là, il n'y a aucun danger, strictement aucun danger, avec ou sans lunettes, à regarder une éclipse de Lune la nuit.
Bien sûr. Et alors, vous parliez de déplacement tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, il faut aller dans d'autres pays pour voir des éclipses? Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas sur la totalité du monde, finalement?
Alors, pour une éclipse de soleil, donc pour que la Lune passe devant le soleil, la Lune est un objet tout petit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 400 fois plus petit que le soleil, et donc son ombre est petite. Donc imaginez un tout petit tronc d'arbre qui fait une petite ombre sur le sol, il faut vraiment aller à un endroit très précis pour être dans l'ombre. Et c'est exactement ce qui se passe au cours de ce phénomène d'éclipse de soleil. Donc c'est pas forcément en France ou à Valence qu'on va se retrouver dans cette zone d'ombre, on peut être complètement à côté et du coup ne pas voir le phénomène. Donc il faut se déplacer sur Terre pour aller strictement à l'endroit où cette ombre se trouve au moment où la Lune passe. Donc cet été par exemple, le 11 juillet, la prochaine éclipse...
2010.
2010, voilà. Le 11 juillet, une éclipse de soleil va avoir lieu et il faudra être dans l'océan Pacifique. Ça passera en Polynésie française et puis l'ombre viendra terminer au sud du Chili. Et si on n'est pas dans cette zone, on verra strictement rien du phénomène.
Donc si vous avez un petit voyage à faire, allez en Polynésie cet été, vous le pouvez évidemment.
Bon, dépêchez-vous, il y a beaucoup d'agences de voyage qui propose ça, les places sont déjà bien achetées, enfin bon, mais allez-y.
Oui, parce que c'est vraiment un phénomène qui attire les gens, les hommes, les peuples. Comment vous expliquez ça, cette fascination pour les éclipses? Qu'est-ce qui se cache derrière?
Alors, il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de gens qui voyagent pour ça, on appelle ça des chasseurs d'éclipses d'ailleurs, j'en fais partie. Voilà, j'étais au Kenya au mois de janvier, en Chine l'été dernier, puisqu'on a régulièrement quand même des éclipses.
Et pourquoi? Quel est l'intérêt?
Alors, il y a un intérêt scientifique et puis il y a une espèce de fascination de l'humain, du terrien, je dirais, pour voir ces phénomènes. Parce que, comment vous décrire ça? Au moment où on assiste à une éclipse, il y a une ambiance très particulière. Parce qu'on a un lien cosmique à ce moment-là. On se sent plus vraiment terrien, poser les deux pieds sur le sol, mais on a l'impression d'être dans le cosmos. On se dit, tiens... Si on est là, s'il se passe ça, c'est qu'il y a ces espèces d'astres grandioses et on est aligné avec eux. On a une représentation mentale de l'espace, c'est vraiment en ligne droite entre la Lune et le Soleil. On est pile sur cette ligne-là et c'est une dimension cosmologique tout à fait autre. On est complètement débarrassé de nos problèmes terriens, de savoir ce qu'on va manger le lendemain ou si notre voiture est en panne. Il faut entendre les conversations des gens lorsqu'on s'attend à voir une éclipse, qu'on est sur le lieu et pendant. Moi, j'ai fait des enregistrements. Les voix sont souvent un peu perturbées, différentes, et les propos qu'on tient, on s'intéresse à des choses complètement routières.
Et vous pensez que c'est plus un effet psychologique ou un effet véritablement cosmique, des ondes?
Non, il n'y a pas d'ondes particulières à ce moment-là. Les seuls effets physiques qui se produisent, c'est que comme le soleil est caché par la lune, il fait plus froid, donc on peut avoir une baisse de température de 15 degrés à peu près, ce qu'on a eu au Kenya là, au mois de janvier.
Ah oui, c'est incroyable.
Et comme on a une baisse de température à l'endroit où il y a de l'ombre, donc quand on est dessous, mais qu'à côté, encore une fois, à 100 km de là, parce que cette zone d'ombre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle fait au maximum, vraiment au maximum, 200 km de large. À peu près. Donc imaginez qu'il y a une éclipse totale à Valence, à Lyon, c'est déjà plus le cas. Donc c'est, par rapport à la planète, c'est vraiment minuscule, 100 km, 200 km. Donc en dehors de cette zone d'ombre, le soleil brille, il fait toujours une température qui est ce qu'elle est, alors que sous la Lune, là où nous sommes, il fait beaucoup plus froid. Et donc les vents se mettent en place. Donc il y a une température qui baisse de 15 degrés au maximum, des vents qui se mettent en place. Les animaux, on était dans une réserve africaine au Kenya, on a vu les animaux se dire, tiens, il fait nuit, pourtant l'éclipse avait eu le matin, ça faisait une heure que le soleil était levé. Bon, hop, on retourne. Donc on voit les animaux repartir de là où ils venaient, puis revenir quelques minutes après en disant « c'est à nouveau fini, il fait jour ». Enfin voilà, ça dérègle un petit peu les comportements animaux humain un peu moins, parce qu'on a tendance à comprendre, nous, un petit peu ce qui se passe. Mais il n'y a pas de, je ne sais pas ce que vous appelez, des ondes, enfin, en tout cas, voilà, phénomènes physiques sans cela. Après, dans l'esprit humain, la représentation qu'on peut avoir, ça, c'est autre chose. Il y a des craintes qui sont accrochées à ce phénomène depuis la nuit des temps et qui existent toujours. Et j'allais dire dans certaines civilisations, mais je crois que je veux dire dans toutes les civilisations. En le 11 août 99, il y a eu une éclipse totale en France, et dont l'ombre de la Lune a traversé la France entre Fécamp, en Normandie et Strasbourg. On pourrait imaginer qu'ici, tout le monde savait que c'était un phénomène géométrique d'alignement de trois astres, etc. Et pas du tout. On a entendu sur les ondes un grand couturier et d'autres dire que la station Mir allait tomber sur Paris, que c'était la fin du monde, etc. etc.
Voilà, oui, il y avait une petite fille qui disait que ce serait effectivement la fin du monde si une éclipse...
Il y aurait des fins du monde entre 2 et 5 fois par an, si c'était le cas.
Eh bien, dis donc, il n'y aurait plus grand-chose,
alors. Il n'y aurait plus grand-chose. Non, c'est un simple et banal alignement de trois astres, voilà, qui n'est pas, évidemment, qui ne se produit pas chaque mois, etc., parce que les mouvements sont assez complexes, je ne vais pas les décrire ici. Mais enfin, on est capable de les calculer et de savoir exactement, à la seconde près, quand ça va se passer et combien de temps ça va durer. Donc, il n'y a pas de mystère aujourd'hui là-dessus pour les scientifiques.
Et comment est-ce qu'on fait pour savoir, pour calculer cela? Ça paraît invraisemblable, pourtant.
Non, on a une connaissance très précise aujourd'hui des mouvements, des astres. On sait à un demi-centimètre près quelle est la distance Terre-Lune. On connaît la période de rotation, de révolution de la Lune autour de la Terre autour du Soleil, une fraction de seconde. Donc, on n'a aucun problème pour calculer ça.
Et il n'y a jamais de ralentissement, d'accélération possible ?
Brutal, non.
Ou alors c'est un film, non. Peut-être.
Oui, il y a un ralentissement extrêmement progressif, même de la Terre sur elle-même. La Terre tourne de moins en moins vite, mais c'est quelques millisecondes par siècle. Mais on arrive à faire ce genre de mesures et on intègre ça dans les calculs et pour programmer, pour connaître les dates, les durées, etc. Pas de souci là-dessus. Mais donc les craintes, elles demeurent aujourd'hui pour des gens qui sont pas forcément informés ou parce que on peut se raconter d'autres histoires. Enfin, en voyageant, on s'aperçoit qu'en Afrique, en Asie, l'endroit où je suis allé un petit peu reculé, où l'information arrive plus difficilement, les gens ont encore des comportements tels qu'on a pu le voir aussi en France en 99 avec certaines personnes. Donc, elles s'angoissent de ce qui se passe, elles vont rentrer dans leurs habitations le temps que le phénomène se termine, parce qu'on se demande ce qui peut se passer. Elles frappent sur des casseroles. En Afrique, par exemple, on a le sentiment que c'est un chat qui est venu et qui a attrapé la lune, etc. Donc les enfants, les adultes tapent sur tout ce qu'ils trouvent comme objet pour faire un son le plus douloureux possible pour que le chat lâche la lune et qu'elle revienne.
Pour faire fuir le chat,
voilà. Et que la lune revienne et continue son mouvement.
Donc il y a tout un tas de rituels finalement autour de ça, quoi.
Et puis, je s'entendais de dire, ça marche. Parce que le chat lâche la lune, donc la fois d'après, on recommence à faire ça. Et en Mongolie, en 2008, le 1er août 2008, il y a une éclipse que je suis allé voir là-bas. Alors là, on tape aussi sur les enfants. Les enfants de 3 ans, on les fait pleurer. On essaie d'avoir à côté de soi un petit enfant. Et parce que les pleurs des enfants aussi font que voilà, les démons s'éloignent et puis la lune et le soleil reviennent dans leur position et la lumière réapparaît. Ben c'est vrai que j'ai vu dans le désert du Niger, pas très loin de la frontière tchadienne. Donc imaginez des dunes, quelques populations touareg, en plein désert, le soleil comme ça, dont la luminosité baisse jusqu'à s'éteindre en pleine journée. Si on n'a eu aucune information à ce sujet, il faut imaginer, il y a quelques siècles, l'angoisse que ça pouvait procurer. Là, cette éclipse durait 4 minutes. En 4 minutes, on a le temps de se dire, mais est-ce que la lumière va revenir ou pas?
Tout à fait. D'ailleurs, c'est très proche peut-être de la peur du noir des enfants la nuit, quand ils sont plus petits.
Oui.
Quelque chose peut-être de similaire.
C'est cette angoisse du noir, peut-être de la mort, peut-être de l'infinité cosmique qui nous saisit à ce moment-là.
Des monstres qui se cachent sous le lit.
Alors, allons savoir.
Alors une dernière question, monsieur l'astronome. Comment, à défaut de l'attraper, l'homme peut-il faire danser la lune? Eh bien, réfléchissons le temps d'une chanson.
Thank you. cœur n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas. Je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé
Alors cette devinette, comment l'homme peut-il faire danser la lune ?
J'ai envie de donner ma langue au chat, mais il faut se méfier parce que je vous ai dit que les chats africains, c'était eux qui étaient coupables, enfin présumés coupables d'embarquer la lune. Donc on va choisir un gentil chat. Je donne ma langue à un gentil chat.
Ah ben on va dire que c'est moi le chat. Eh bien je vais vous le dire, c'est en jetant une pierre dans l'eau bien sûr, pour que danse le reflet de sa beauté. Voilà comment de lune à l'homme, il n'y a qu'un pas. Là-haut, tout là-haut, elle peut être aussi ici-bas. Je ne sais pas vous, mais moi ce que j'aime bien avec la lune, les astres et les planètes, c'est que comme ils sont très haut là-haut, on dirait qu'ils peuvent tout et qu'on peut tout leur demander. Oui, j'avoue, moi ça me console parfois de me persuader qu'il y a une petite étoile là-haut à moi, rien qu'à moi, et que quand la lune elle est pleine, mes petites graines semées pousseront bien mieux. Et surtout que si j'ai de la chance de voir une étoile filante, mes vœux seront alors exaucés. Oui, oui, ce firmament, vraiment, une carte de bord pour les marins, mais surtout une vraie carte du bonheur. À qui veut bien s'en faire des contes de fées? Eh bien justement, bonheur pour bonheur, prenez un peu de temps pour savourer cette drôle d'histoire illuminée d'un conteur à défaut d'une fée, j'ai nommé Amadou Empateba dans Calomina. Le soleil épousa la lune, reine des nuits. Après 13 jours d'union, la lune, comme prise de remords, voulut quitter son royal époux. Elle désirait retrouver ses 7 amoureux. Un occultiste qui se nourrissait de rates crues, un riche propriétaire terrien qui vivait de foie et de lait de grenouille, un guerrier monopode qui chaque jour avalait une calebassée de bile de lion, un prince somptueux qui résidait au sein de la terre dans une île de feu, un vieux magicien doté de 3 yeux, un voyageur merveilleux qui franchissait les plaines célestes monté sur une tortue ailée, et enfin le plus aimé des 7, un jouvenceau dont les membres inférieurs étaient en métal. La reine Lune réussit à tromper les sentinelles qui la gardaient. Se faufilant à travers les amas de nuages, elle rejoignit son royaume. Le soleil ne vit pas en mal l'escapade de sa femme. Pour lui, ce n'était là qu'un caprice passager. Aussi se mit-il en route pour aller au-devant d'elle. Chemin faisant, il rencontra Sigilolo, l'étoile du buffle. Celle-ci le mit indiscrètement au courant des aventures de son épouse la lune. Rendu furieux par la jalousie, le soleil darda ses rayons sur les ténèbres. Il aperçut nettement son épouse assise au milieu de ses amoureux. Il s'élança afin de la saisir et de l'étrangler. Mais la terre, perverse, entremetteuse de la lune, s'interposa entre la reine vagabonde et son mari déshonoré. Le soleil, fou de rage, jura de fendre la lune en deux. Pour ne pas la manquer, il se plaça sur la route qu'elle devait emprunter pour regagner sa maison. Quand son épouse croisa son chemin, cette position déclencha sur la terre une obscurité dont tout laissait à penser qu'elle serait perpétuelle. Ce fut la première éclipse, dite Calomina ou prise de la lune. Les hommes furent envahis par la panique. Pour eux, l'obscurité était l'image même de la mort, car c'est d'obscurité que s'enveloppent les sorciers et les mauvais génies quand ils jettent les sorts maléfiques. Moriba, qui était le sacrificateur de son peuple, ordonna à tous les hommes de se vêtir d'habits ridicules et d'accomplir des actes stupides. Par exemple, piler de l'eau dans un mortier, monter un cheval la face tournée vers la queue et autre chose de ce genre. Cette mascarade n'avait d'autre but que de détourner l'attention du soleil afin que la lumière, mère du jour, puisse passer. Le soleil, voyant la foule travestie exécuter des mouvements désordonnés et cocasses, fut pris d'un grand rire. Il évacua le chemin et dit « Lumière, passe !» Et la lune en profita pour se faufiler et regagner son logis. Quand le soleil se rendit compte que la lune était passée, en même temps que la lumière, il en fut très vexé. Il se lança à la poursuite de son épouse à travers les pièces de leur vaste demeure. Depuis lors, cette course n'a jamais cessé, et chaque fois que le soleil est sur le point de mettre la main au collet de cette dévergondée, la terre vient se placer entre les deux pour recouvrir la lune de son ombre et aveugler le soleil. Voilà, c'était Calomina d'Amadou en Patéba, l'histoire de Sieur Soleil et Dame Lune. Tiens, tiens d'ailleurs, pourquoi le soleil est-il si souvent dans les histoires un monsieur qui brille de mille feux, et la lune une demoiselle qui, elle, ne fait que recevoir la lumière masculine? Étrange, étrange. Eh bien, tenez, chères oreilles buissonnières, je vous charge de la mission prochaine d'inventer l'histoire de Dame Soleil et de Monsieur Lune, histoire d'inverser un peu les rôles de temps en temps. Bref, cette émission est finie. Merci à Marc Buonomo, maître des étoiles, Sylvère Petit au montage son, Éric Barral à la console, et moi-même, Donatienne Rank. Ah oui, et n'oubliez pas, avant de vous endormir, de toujours laisser un petit coin de rideau et de volet ouvert pour observer cette grande cour de récré, de cache-cache-lune, de 1, 2, 3 soleils et de courses étoilées. Vous m'en direz des nouvelles. À bientôt.